Bonsoir à tous, c'est le rendez-vous sur France Culture et ce soir deux plateaux pour des invités liés par une certaine idée de l'innocence. 19h15, plateau filtre avec David Hamilton qui signe Un monde de beauté, exposition d'une nouvelle série de photographies qui met la peinture et le pictorialisme à l'horizon de son style toujours évanescent, Manu Farine.
Portrait de celui qui aura recouvert les murs des années 70, pris en charge son imaginaire et largement redéfini la diffusion du médium photographique.
19h30, la chronique Ciné Rock du mercredi de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme le cinéaste Adolfo Arrieta. 19h35, le plateau sera montage avec Hervé Deluz à l'occasion de la double ressortie en salle et en DVD de Tess de Roman Polanski, dont il est le monteur. Retour sur le parcours de celui qui a collaboré avec Polanski, avec Alain René, Maurice Pialat, Arnaud Desplechin et même Jean-Yann, Mathieu Conquet.
Oui, le travail d'un monteur image qui est aussi d'abord un monteur son et soit un artisan donc de la dramaturgie du son, notamment chez Polanski.
19h50, session Muse avec Jacques Randa, Muse. Les invités musicaux de Mathieu Conquet.
Jacaranda Muse, c'est un quartet de Harare au Zimbabwe. Il mélange piano à pouce et violoncelle. On les entendra pour une session en direct à deux au lieu d'être quatre. Je vous expliquerai pourquoi.
Mais d'abord, on ouvre avec l'actualité culturelle. C'est le journal de la culture. Tout d'abord, le dossier hommage ce soir avec Xavier Martinet, puis les brèves de Benoît Lagane. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Les milieux du théâtre japonais en deuil après le décès cette nuit, ou la nuit dernière plutôt, de l'acteur Kanzaburo Nakamura. Il avait 57 ans seulement, mais il a eu le temps quand même de marquer le traditionnel théâtre kabuki comme un de ses plus farouches expérimentateurs.
Oui, et peut-être d'abord parce que acteur, eh bien, c'est la place centrale de ce genre théâtral au sens large, un peu différent du no et du buto, et extrêmement codifié, avec seulement des hommes pour jouer les deux sexes, ça c'est presque normal, mais des textes presque chantés, et puis des pauses pour marquer les temps forts, et puis c'est surtout le genre le plus populaire au Japon, assez proche, si vous voulez un point de comparaison, de la Commedia dell'arte ou alors du théâtre élisabétain, qui est d'ailleurs né au même moment, au XVIIe siècle. Le kabuki, aujourd'hui, a sa chaîne de télévision au Japon et les acteurs forment de véritables dynasties, plus ou moins identifiées à des lignées d'interprétation esthétique. Ce sont les Shikawa, les Tamasaburo, les Noda et les Nakamura. Ils portent leurs noms, qui sont souvent des noms de scène d'ailleurs, comme des titres, donc, et ils sont adorés comme de quasi-saints. Il suffisait de voir ce matin sur les images de la NHK, les fans et puis ses confrères devant la maison de Kanzaburo Nakamura. Et puis il suffit d'entendre aussi le critique de théâtre Jun Takahashi que j'ai joint à la fin d'une longue journée.
Je l'aimais beaucoup et il me manque déjà. Il est tellement charismatique, vous savez. Toute sa famille est dans le kabuki depuis 300 ans. Mais lui, c'est un gosse de 57 ans. Je dis un gosse parce que moi, j'en ai 80. Il a le cœur jeune et il a tout expérimenté. Par exemple, il a chanté du rap dans un spectacle de kabuki. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Et dans son dernier spectacle à New York, il a fait monter la police sur scène pour surprendre le public. Le rideau de fond disparaît d'un coup, une porte s'ouvre. Et une demi-douzaine de policiers new-yorkais fait irruption pour s'emparer des acteurs.
Et Kanzaburo Nakamura a aussi joué pour la télévision et pour une vingtaine de films, mais surtout, il a voulu innover.
Et oui, c'est ce qu'on comprend. Et en déterritorialisant, en décloisonnant, si vous voulez, formellement et géographiquement, ce genre qui était confiné jusque-là aux deux principaux théâtres de Tokyo, le Shimbashi et le Kabukiza. Il s'intéressait d'ailleurs aux danses du Kerala, au sud de l'Inde, ou alors aux danses balinaises. Et au moment où le Kabuki sort du Japon, ce qui est à peu près concomitant avec le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005, eh bien, Nakamura s'est produit avec succès à Berlin, c'était en 2008, mais aussi à Singapour ou à New York, mais curieusement, jamais en France, malgré l'inflation du kabuki ces dernières années. Mais là, peut-être justement parce qu'en France, il s'agissait encore d'un kabuki plutôt traditionnel, car si certains auteurs essayent bien aujourd'hui de briser les codes du genre, l'un d'eux voulait utiliser des costumes occidentaux, par exemple, Nakamura, lui, reste un des rares acteurs à avoir vraiment expérimenté scéniquement. C'est ce que nous explique Christian Dumelvowski, qui a réalisé en 2002 le documentaire Kabuki, la voix du geste, un documentaire sur le kabuki classique.
Au théâtre Kabukiza, on dit aussi que le public est en baisse. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie d'avoir des figures de kabuki qui sortent un peu de l'ordinaire. Et les familles avec lesquelles nous avons travaillé pour Kabuki La Voix du Geste, ce sont des familles justement qui ont tout autant que Kanzaburo un discours sur la nécessité d'une certaine modernisation du jeu du kabuki, mais qui n'allait pas dans les excès commis par Kanzaburo. Et ici, j'emploie le mot excès qui doit être utilisé par eux lorsqu'on parle de lui. Et je pense que l'expérience new-yorkaise a été assez formidablement accueillie à New York, mais je ne sais pas du tout tout ce que ça donnerait à Paris, par exemple.
Et quant au théâtre Kabukiza de Tokyo, vous savez, on s'en était fait l'écho, il avait été détruit en 2010, et il est possédé par la même société de production que celle de Kanzaburo Nakamura, eh bien, il devrait rouvrir en avril prochain.
Juste quelques notes fameuses pour saluer la disparition aujourd'hui de Dave Brubeck, une figure emblématique du jazz, Mathieu Conquet.
Il n'aura jamais 92 ans, le pianiste californien Dave Brubeck est mort donc la veille de son anniversaire, le 6 décembre 1920. Ce qu'on entend, c'est vraiment un des très grands tubes du jazz, une mesure en 5-4, d'où le titre Take 5, avec le thème très fameux de son saxophoniste Paul Desmond. Brubeck, on l'a souvent répété, il avait suivi l'enseignement de Schoenberg et de Darius Milhaud. Ça n'en fait pas du tout pour autant un suiveur de cette école-là. Si les puristes ont pu avoir des réserves sur son jeu de piano, en revanche, il a toujours été reconnu, vraiment admiré pour ses expérimentations en tant que compositeur, notamment sur des formes comme le contrepoint, la fugue et puis surtout le rythme. Un petit exemple en plus, par exemple du 5-4 qu'on entend là, le blues rondo à la turque qui était basé sur une sonate de Mozart, mais lui, il avait un rythme en 9-8, inspiré d'une danse grecque qui pouvait alterner avec du 4-4 et ainsi de suite. Même chose pour Straight to Get Ready, c'était une sorte de valse qui alternait en 4-4. Expérimentation sur le rythme. Alors Brubeck, il est né en 1920, c'est la même année que Charlie Parker, et ce qui est drôle, c'est qu'on pourra dire qu'il est resté comme son opposé géographique et musical, puisque contre le cool de la côte ouest, qui est une sorte de lyrisme horizontal côté des Brubeck, les notes empilées du bebop de la côte est, Brubeck qui reste comme sa musique, à l'horizontale à tout jamais.
Merci Xavier Martinet. Tout de suite, et merci Benoît Mathieu Conquet. Tout de suite, je me tourne du côté de Benoît Lagan. Mais c'est vrai que deux hommages l'un après l'autre, ça peut perturber l'esprit.
Eh bien, pour ouvrir ces brèves, Laurent Goumard, on commence par une bonne nouvelle pour les Bretons. Le célèbre Festnoz vient d'être inscrit aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'humanité par un comité intergouvernemental de l'UNESCO réuni à Paris. Le Festnoz figure donc désormais sur cette liste sur laquelle la France avait déjà pu inscrire depuis 2009 la tapisserie d'Aubusson, la dentelle d'Alençon, le compagnonnage ou encore l'équitation traditionnelle française.
Le Louvre-Lens serait déjà un succès public.
C'est sans doute un peu trop tôt, mais en attendant l'ouverture définitive au public prévue le 12 décembre, on peut dire quand même que c'est déjà 5000 visiteurs qui étaient présents hier lors de la cérémonie d'ouverture après l'inauguration officielle du musée par le président de la République.
Les billets de cinéma et la TVA, deuxième acte.
Oui, les professionnels du cinéma qui demandent au gouvernement de revenir sur la hausse de 3 points de la TVA sur le billet de cinéma, une information que j'évoquais hier, devront poursuivre leur action. L'Assemblée nationale a en effet rejeté cette nuit, lors de l'examen du projet du budget rectificatif, les amendements du communiste Nicolas Sansu et du député UMP Marc Le Fur, qui visaient justement ces amendements à contrer cette hausse programmée de la TVA sur les billets de cinéma à compter de début 2014.
Et pour terminer, la petite histoire du jour.
Une petite histoire hollywoodienne où comment, afin de fêter leur 90e anniversaire, 9 lettres mythiques viennent d'être ravalées par le soutien d'un super robot et d'un super coquin. Je vous raconte. Tout commence à Los Angeles quand en 1923, afin de promouvoir un projet immobilier baptisé Hollywoodland, 13 lettres sont érigées sur les hauteurs du célèbre quartier. Quelques années plus tard, en 1940, les lettres Land, les 4 dernières lettres du mot, disparaissent pour mieux laisser briller Hollywood en haut de la montagne, soit 9 lettres mythique de 15 mètres de haut, symbole de l'histoire et de l'industrie cinématographique de Los Angeles.
9 lettres qui étaient donc menacées.
Déjà délabrées et menacées en 1970, 9 donateurs décident à l'époque d'adopter chacun une lettre afin de leur redonner de l'éclat. Mais voilà que 30 ans plus tard, dans les années 2000, Hollywood se retrouve à nouveau abîmé, mais aussi menacé de disparition quand les propriétaires des terrains situés à ses pieds souhaitent vendre leurs terres. Fort heureusement, les 9 lettres seront sauvées par l'intervention d'un duo de choc et de charme, Hugh Hefner, le mania du groupe Playboy, et l'ex-gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, ou comment, avec l'aide de 1365 litres de peinture blanche brillante, l'alliance de la robotique musclée et du lapin coquin ont pu sauver un symbole, bref, une grande opération de nettoyage.
Pardon, monsieur, êtes-vous un homme de main ?
Nous sommes les spécialistes de la propreté.
Non, je serais plutôt l'homme de ménage.
Notre équipe de techniciens vous garantit une qualité irréprochable en mettant tout son savoir-faire à votre service.
Et il me suffirait de claquer des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Vous avez d'autres questions ?
Oui, je reviendrai.
Quelquefois, il faudrait vous aspirer aussi, Benoît Lagan, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos invités, Hervé Deluze et David Hamilton? Hervé Deluze?
Non, j'ai entendu cette histoire de billets de cinéma, je n'étais pas du tout au courant et je me suis dit qu'on est tellement plongé dans notre travail qu'on n'est pas du tout au courant des choses qui nous touchent directement en fait.
La profession ne vous en a pas parlé, les réalisateurs avec qui vous travaillez, ni les acteurs, ni quoi que ce soit.
Personne. C'est très étonnant.
Est-ce que vous pourriez vous mobiliser justement pour lutter contre cette hausse de la TVA? Qu'est-ce que ça représente d'ailleurs pour vous?
Je pense que de toute façon, moi il me semble en tant que spectateur que les billets de cinéma sont très très chers.
Pas que spectateur, aussi monteur.
Oui. Mais enfin, je parle en tant que spectateur, je trouve que les billets sont très chers, alors je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai que le cinéma ne va pas si bien que ça, malgré qu'on dise que ça marche très très bien. C'est quand même, on le sait, quelques films qui ramassent toute la mise, qui raflent toute la mise. Donc le reste vivote un peu, donc c'est sûr qu'on a besoin d'un peu plus de fonds, malgré les aides énormes de l'État qui sauvent notre cinéma de la déchéance européenne, je dirais. Enfin,
David Hamilton, est-ce que vous voudriez commenter quelque chose ou alors on commence directement?
Non, j'ai bien connu parler de Tess.
Oui, on va parler de Tess tout à l'heure.
Ouais. J'étais à l'ouverture de Tess avec Natasha et Polanski en 79, c'est ça?
79,
oui, c'est 79. Ça.
Ouais. Alors, je me souviens très bien de tout ça.
Octobre, ouais.
Mais on parlera tout ça tout à l'heure avec Hervé Deluze et avec vous, Roman Polanski.
19-20, le rendez-vous.
Rendez-vous.
C'est sur France Culture.
J'ai l'impression que ce soir, mon inconscient me joue des tours. Les gens prennent des noms complètement différents. Bon, plateau filtre avec vous, David Hamilton, donc photographe et cinéaste aussi. On en parlera pour une photographie en tout cas suridentifiée dès le début des années 70. Des jeunes filles dénudées, squelettes menus, couleurs pastel, lumière douce. Le tout travaillé en effet flou caractéristique qui a tapissé notamment les chambres dans les années 70 et 80. Vous exposez aujourd'hui un monde de beauté à la galerie Arcube à Paris, une série de photographies sur deux étages, au rez-de-chaussée des photographies récentes en couleur, la plupart réalisées à Ramatuelle, donc chez vous, avec une tendance pictorialiste ou du moins des références à la peinture, par exemple François Boucher ou les pré-raphaélites anglais. Au sous-sol, il y a comme une sorte de mini-rétrospective des différents motifs qu'on vous connaît, jeune nu féminin, nature morte et paysage. Alors d'abord, un mot sur le style qui vous identifie, pastel, filtre. Est-ce que c'est un langage qui s'est mis en place d'emblée, sachant que votre travail photographique commence sur le tard? Est-ce que dès les premières photos, le style était déjà là, David Hamilton?
Déjà, j'ai traduit un poème de Leonard Cohen, Suzanne. Ça commençait là et ça a démarré tout de suite. C'est que mon style est basé sur lumière naturelle, surtout ça. Je ne peux pas travailler ailleurs qu'avec ça. Comme les peintres, alors c'est cette simplicité qui est la base, les belles filles qui viennent du Nord. Lumière, comme vous dites, et pastel, mais ce n'est pas fabriqué en studio. C'est un monde, je vis ce monde, soit dans le sud ou dans le monde entier. C'est naturel, c'est surtout ça.
Quelle était donc cette photographie réalisée donc pour la chanson Suzanne de Leonard Cohen? Ça consistait en quoi cette photographie?
De traduire le poème Suzanne, qui était très graphique, qui est sorti dans Twen, le magazine allemand à l'époque, et qui a touché le monde et toutes les hippies de l'époque. Et c'est archi connu, c'est ça, surtout Leonard Cohen, n'est-ce pas?
Alors, autre chose qui est archi connue chez vous, c'est en 71, le premier album, Rêve de jeune fille, succès absolument mondial, international, avec un texte d'Alain Robbe-Grillet, qui lui, quand même, avait un autre érotisme, beaucoup plus glacé, comme on pourra le voir dans ses films. Est-ce que vous vous connaissiez? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée du texte d'Alain Robbe-Grillet, David Hamilton?
Mais on était tous fauchés à l'époque, et il a fait un article dans Zoom, un magazine Zoom. Et comme il est typé au mot, à la ligne, il a écrit des kilomètres de texte. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et après, il est devenu star.
Mais il était déjà, pas une star, mais véritablement, il était déjà connu comme une sorte de pape déjà du nouveau roman en 71.
Et je sais qu'il a fait un tour des campus en Amérique pour un intellectuel et comme toute la bande qui a fait... les films cultes à l'époque. Et il me dit, moi, j'arrive là-bas, personne ne me connaît, sauf à travers une merde de photos. Furieux, c'est lui qui m'a dit ça.
Comment vous regardiez justement son érotisme et son rapport à la photographie chez lui ? Beaucoup plus froid, beaucoup plus clinique, beaucoup plus classé. Chez Rob Grillet, les photos de Rob Grillet, ou disons...
C'était quoi, l'année dernière, Marienbad et Hiroshima, tout ça, c'était ça, là, Rob Grillet, n'est-ce pas ?
Rob Grillet, c'était plutôt l'année dernière à Marienbad, enfin pas le film, mais plutôt Glissement progressif du plaisir, par exemple, ou du désir.
On ne s'est pas connus à ce point-là, vraiment.
Manu Farine.
Alors Laurent disait tout à l'heure, David Hamilton, que la photographie était arrivée assez tard, hein, parce qu'il y a eu donc d'abord des études d'architecture et puis un parcours de designer graphique et de directeur artistique. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher du côté de l'architecture ? Quelles étaient vos références, par exemple, au moment où vous avez commencé ces études ?
Pourquoi j'ai commencé ? Je dis, c'est un style de vie. Avant, c'est pas un studio, c'est ma vie. Une vie au soleil, une vie avec ces beautés qui viennent du Nord. Ça fait partie, c'est pas de la pub, je l'ai jamais fait de la publicité, très très peu, sauf Nina Ricci, l'air du temps.
Mais les photos existaient déjà, les photos existaient déjà pour Nina Ricci, ils sont venus chercher des photos qui existaient déjà chez vous. Vous n'avez pas créé des photos pour la pub Nina Ricci?
Pas vraiment, non, monsieur Ricci choisit ce que j'avais fait dans l'année. J'étais obligé de faire une photo par an. Pour vivre, c'était dur.
Vous pouvez imaginer. Manu ?
La question, c'était pourquoi l'architecture ? Parce que vous avez commencé par des études d'architecture.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec la photo.
C'était ça juste. Pourrait.
Ça se peut, mais c'est un moyen de gagner la vie. Mais surtout, ça a commencé à The Queen Magazine, The Swinging Sixties. J'étais directeur artistique de ça. 60, 61, et on a tous commencé ensemble, hein, tous, Polanski d'un côté, les Stones, les Beatles, on a tous commencé dans les années 60, et les premières photos étaient publiées en 70.
Retour à l'exposition à Paris, les œuvres, on le voit hein, au premier étage, ou plutôt au rez-de-chaussée, se sourcent manifestement dans la peinture, par les sujets et même par la manière, surlignée d'ailleurs par d'énormes cadres, puisque c'est ça que vous avez choisi donc pour les présenter. Quelle est la peinture que vous avez voulu revisiter, ou quelle est la peinture qui vous intéresse profondément ?
Ouf, il y en a tellement, parce que le dernier livre s'appelle « Hommage à la peinture ».
Exactement.
Et par où a commencé les natures mortes, c'est Giorgio Morandi, Privus de Chavannes pour les nus. J'admire beaucoup Cranach, les nus de Cranach, et tout ce monde de peinture où je suis Renoir, un hommage à tellement de peintres. Voilà.
Alors, quand on traite de la peinture en photographie, c'est aussi revenir à une histoire de la photographie, notamment ce qu'on appelle les pictorialistes. Ce qui correspond bien à une déclaration que vous avez faite il y a quelques années. Vous aviez dit « Pour moi, la photographie s'arrête en 1920 ». Qu'est-ce que ça voulait
c'est
dire ?
C'est tout à fait ça. Depuis, je trouve un énorme monde de technique et peu de talent. L'âge d'or de la photo, c'était presque au début 1860 jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est vraiment ça. Après, il y en a, mais après...
Après, il n'y a personne qui trouve grâce à vos yeux.
Non, j'ai deux femmes, en fait. Diane Arbus et Saliman, aujourd'hui. Très, très fort. Mais c'est surtout les pictorialistes, comme De Machi. Robert De Machi et plein de gens autour, et en Amérique, Steiglitz. Et j'ai jamais dépassé cette époque-là. Il n'y a rien aujourd'hui qui m'intéresse vraiment.
Qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement, justement, dans cette période photographique du pictorialisme, David Hamilton ?
Mais c'est la simplicité aussi. Il n'y avait pas de flash ni que ce soit. C'était vraiment ça, la simplicité des paysans que moi, j'essayais de faire pareil. C'est le mot, la simplicité de l'époque, avant toute la technologie est arrivée.
Hervé Deluze, est-ce que vous comprenez justement cette référence, au vu du travail de David Hamilton, sur cette période-là, cette focalisation sur cette période pictorialiste ?
Oui, c'est vrai que aujourd'hui, dans l'art en général, je pense que la technique a pris un poids énorme. Enfin, c'est vraiment, ça préside à beaucoup de décisions, malheureusement, quoi. C'est vrai que il y a une époque où on avait l'impression, on sentait moins ça. Je sais pas comment c'était parce que j'ai pas forcément vécu cette époque, mais on n'avait pas ce sentiment-là. Maintenant, c'est vrai que c'est avant tout technique, quoi. C'est beaucoup ça, oui.
Mathieu Conquet.
J'avais une question sur les modèles de peintres dont vous parliez, parce que les femmes chez Granac, ce n'est pas du tout les mêmes femmes que chez Renoir. Chez Granac, c'est un peu pour faire vite Jane Birkin. Chez Renoir, elles sont beaucoup plus voluptueuses. Quel serait le peintre dont les modèles ressemblent à ceux que vous aimez photographier?
David Hamilton.
Voilà, toutes des hommages à tout le monde là, vous voyez un peu. Cranach, c'est le seul qui est sorti du Moyen-Âge, qui était sensuel. Les autres étaient un pied dans la Bible et tout. Et Cranach, c'était le premier qui était vraiment sensuel.
Manu Farine.
Alors, le critique d'art et commissaire Éric Troncy, vous avez exposé à la Biennale d'art contemporain de Lyon, c'était en 2007, David Hamilton, en expliquant que vous étiez, pour lui en tout cas, l'artiste de la décennie, c'est-à-dire des années 2000, non pas forcément pour ce que vous faisiez, mais pour ce que vous ne pouviez plus faire, c'est-à-dire qu'à un moment, vos photographies, vous avez eu du mal en tout cas à continuer à faire les photographies telles que vous les faisiez. Elles ne passaient plus l'épreuve, disons, de l'époque, de la censure, peut-être même de l'autocensure. À quel moment est-ce que vous avez perçu ce changement?
Ah, mais c'était tout à sauter avec l'affaire Dutroux. Tout. Avant ça, j'avais fait, je suis au 40e livre, et un des livres s'appelle, L'âge de l'innocence. Et c'était vrai à l'époque. Maintenant, c'est la fin de l'innocence. Le monde a tellement changé dans les dernières quinzaines d'années. Il n'y a que des scandales. Moi, je suis arrêté, comme je vous avais dit, dans le passé. Aujourd'hui, rien ne va plus.
Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour vous?
C'est-à-dire que les commandes se sont arrêtées, on a interdit vos livres, il y a eu des manifestations contre certains de vos livres, je crois d'ailleurs aux États-Unis.
Mais tu crois, les parents sont maintenant conscients de cette jeune fille qui était libre, toujours là, toujours d'accord dans le monde, et c'est fini maintenant. C'est plus, non, ils ont entendu trop de scandales dans la presse quotidienne.
Donc vous avez eu du mal à trouver vos modèles?
Ça se trouve encore en Scandinavie, il reste un peu d'innocence, mais c'est tout.
Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers où des gens ont manifesté contre vos photos ou contre vos albums? Et où est-ce que ça a pu se passer? Est-ce que ça s'est passé en France, en Europe ou aux États-Unis, David Hamilton?
Pas trop, mais les pays plus difficiles, c'est un problème anglo-saxon. Les Anglais, les Américains. Ça vient de l'âge victorien. Le reste du monde, non, il n'y a pas de problème. La France était très tolérante, mais de moins en moins. Il suit l'Amérique, pourquoi, je ne sais pas. Mais pour moi, l'âge d'or était les années 70, 80 et jusqu'à 95 où tout a chuté.
Vous avez beaucoup travaillé dans les pays du Nord, hein, vous l'avez dit, notamment en travaillant, en prenant des photographies dans des camps de nudistes. Des filles qui ont en commun, en dehors de leur jeunesse, hein, leur blondeur, leur minceur, une certaine anatomie. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce canon-là de beauté? Qu'est-ce que vous y trouvez dans ce canon-là de beauté, David?
Moi, je cherche l'innocence. C'est surtout ça. Nous sommes trois dans le monde, à peu près, et à Balthus. Peintre, et un Nabokov avec Lolita, et moi, c'est trois thèmes qu'on a suivis pour la vie. Il y en a très peu, il y a Jock Sturgis aussi, mais il y a très très peu.
Qu'est-ce qui vous fait penser que le Nord prendrait en charge davantage l'innocence?
Le Nord, mais d'abord ils sont le blond, mais le blond c'est des oiseaux très rares, même au Nord. Les yeux bleus, ça photographie d'une autre façon, la peau pâle et tout, qui va avec mon style. Y a le Nord, à mon avis, est plus innocent que le reste du monde. Ce qui reste.
Est-ce que, par exemple, quand vous avez regardé Tess à l'époque, vous avez pu retrouver dans certaines scènes quelque chose qui pouvait être de l'ordre du style de David Hamilton? Est-ce que vous en avez parlé avec Polanski?
Oui, j'étais là, mais. Tess, c'est un film très négatif, comme tout ce qu'il fait, Roman, hein. Tout. Mais quand même une grande beauté, hein. Le film, surtout le danse au début et tout. Et on se connaît depuis les années 60, tous les deux.
Et vous avez eu le sentiment qu'il y pouvait y avoir un style Hamilton dans ce film-là?
Non, pas du tout, parce que c'est très dur, la photo. Très, très dur. Par peut-être la première scène de danse. Mais sinon, bon, Natasha, très belle femme. Hein.
On parlait tout à l'heure du fait que vous avez aussi signé des films. Vous en avez signé 5, dont Bilitis en 76, avec notamment Catherine Breillat pour le scénario, Francis Lay à la musique. Et le directeur de la photographie, c'était quelqu'un qui avait aussi photographié Les Contes Zimoro de Borowitz avec Fabrice Lucchini, ou Tendre Cousine, ou même Aphrodite. C'est en voyant Contes Zimoro que vous êtes allé chercher ce directeur de la photographie pour
Bernard Dayancourt, ouais. Vous parlez très, ouais. Très bien, parce que c'est important dans un film, et comme pour Bergman, on garde l'équipe. Toujours, c'est sacré, l'équipe. Le reste, l'acteur, c'est autre chose. Toujours la même équipe.
Et alors, quelles indications de lumière vous lui avez données pour qu'il retrouve le style Hamilton au cinéma?
Oui, c'est beaucoup plus difficile à faire au cinéma qu'en photo. Mais quand même...
Comment il a fait? Quels sont les secrets que vous lui avez donnés?
Beaucoup de mal, parce que il faut travailler 8 heures par jour. Et la lumière change, tout change. On a du mal à garder cette lumière de jour.
Une dernière question, David Hamilton. Est-ce qu'il y a des photos que vous ne publierez qu'après votre mort?
Oh, sûrement, il y a un paquet. Sûrement, je vous assure.
Le rendez-vous, les Inrocks, la chronique. Les
Inrocks. Un autre cinéma... pas du tout proche, mais quelquefois, il pouvait y avoir des relations. C'est vrai. D'innocence.
Emblématique aussi des
Adolfo Arrieta, emblématique des années 70.
Adolfo Arrieta.
Marc Lalanne.
Un cinéaste, comme vous l'avez dit, très peu connu, dont les films sont très rares, mais pour ceux qui les ont vus, ce sont des films extrêmement cultes, que la petite maison de distribution et d'édition Capricci est en train de restaurer, s'apprête à ressortir tous les films début 2013, et dès maintenant, comme une sorte de teaser, elle publie un livre d'entretien avec le cinéaste mené par le critique de cinéma Philippe Azoury. Et le livre est vraiment formidable. On apprend à connaître non seulement l'œuvre qui est largement commentée, mais aussi la vie extrêmement romanesque de ce cinéaste, Adolfo Arrieta, qui est né au début des années 40 en Espagne, dans une famille d'intellectuels antifranquistes. Et sa mère l'amène à l'âge de 7 ans voir Orphée de Jean Cocteau. Et il est absolument foudroyé, il est obsédé par les miroirs, il est obsédé par la mort, par les fantômes, et il décide de devenir cinéaste. Ce qu'il va faire dès le début des années 60, à 20 ans, à Madrid, il va faire des films autoproduits, complètement expérimentaux, mais pour un jeune homosexuel qui veut être poète et cinéaste expérimental, l'Espagne franquiste, on l'imagine, c'est pas vraiment le lieu idéal. Donc il s'enfuit. Il arrive à Paris. À Paris, Cocteau vient de mourir. Donc du coup, il va aller voir Jean Marais, qui va être assez bouleversé par ce jeune homme qui est totalement obsédé par Cocteau et qui va accepter de jouer dans son premier long-métrage autoproduit, pas du tout narratif, totalement expérimental, qui s'appelle Le Jouet Criminel. Et ce film va être sélectionné dans un festival, au festival de films expérimentaux de Pessaro, où Marguerite Duras présente Détruire, dit-elle. Et Marguerite Duras voit le film, elle est foudroyée.
Elle aurait aimé le ciné.
Arrieta raconte de manière très drôle qu'il était à la sortie de la salle et tout d'un coup, Duras se plante devant lui et lui dit « c'est beau, c'est beau, c'est beau ». 3 fois et c'est tout. Donc Arrieta tombe immédiatement amoureux d'elle et elle intègre dans sa bande, elle lui présente Coppi, elle lui présente Enrique Villamatas qui fera de Arrieta un des personnages principaux de Paris ne finit jamais. Donc il fréquente un peu la sphère Duras au début des années 70, c'est la bande un peu de Saint-Germain et en même temps il rencontre une autre bande. C'est les premiers militants homosexuels, transsexuels, qui gravitent autour de ce qui deviendra le journal Libération. Hélène Azéra, Maud Molineux, et aussi la bande du Palace, Paquita Paquin, Marie-France. Et tous ces gens, il va décider de les filmer et d'en faire des films. 3 films absolument magnifiques qui sont un peu l'équivalent français de ce que Warhol a fait avec les icônes de la Factory, qui s'appellent Tam Tam, Les Intrigues de Sylvia Kouski. Et Flamme, qui sont comme des fêtes idéales où on rêverait d'être invité. Le chef-d'œuvre d'Arrieta, c'est Flamme, le troisième de ces films-là, dont je vous dis En deux mots, l'histoire qui est géniale, c'est l'histoire d'une jeune fille de bonne famille, jouée par Caroline Lum, qui est folle des pompiers. Elle est tellement folle des pompiers qu'elle met régulièrement un incendie dans sa chambre pour que les pompiers viennent l'éteindre. Elle finit par capturer un pompier et s'enfermer avec elle et ne plus jamais vouloir sortir de sa chambre avec son pompier au désespoir de ses parents. Donc c'est des films totalement loufoques qui ne parlent que de perversion, de fétichisme et de désir totalement défoulé, mais qui le font de façon pas du tout torturée, mais de façon extrêmement joyeuse, innocente et joyeuse. Et c'est vraiment ce sentiment-là qu'on a à la lecture du livre, de découvrir un monsieur qui maintenant a 70 ans et qui a gardé de façon tout à fait intacte cette innocence et cette joie.
Too late.
Tess, I came to ask your forgiveness.
It's too late.
Too late? My darling wife. I've come to fetch you.
Don't come near me, Angel, please. Too late. Too late.
Plateau montage qu'on ouvre sur cet extrait de Test de Roman Polanski avec la voix de Natasha Kinski, un film de 79 dont vous étiez le monteur son, Hervé Deluz. C'est votre première à l'époque collaboration avec Polanski, avec qui vous avez très souvent travaillé. D'ailleurs, vous aviez été nommé à l'Oscar du meilleur montage pour Le Pianiste, sans parler des autres collaborations, Claude Berry, Alain René, Maurice Pialat, Arnaud Desplechin, on en parlera. Mais d'abord, je voudrais revenir sur Tess, et notamment sur cet extrait, donc Tess qui ressort en salle et en DVD, l'adaptation du roman de Thomas Hardy, donc le destin mélodramatique et tragique d'une fille de la campagne au XIXe siècle. L'extrait qu'on a passé est intéressant, c'est la grande scène des retrouvailles entre Tess et son mari qui l'a abandonnée, Angel. Ça se passe à l'intérieur d'une maison, et on entend les ciseaux du jardinier. À l'époque, vous étiez monteur son. Comment vous aviez travaillé sur cette scène ?
J'ai travaillé sur un film qui était déjà monté, dont une version avait été montée. Donc, j'ai un peu retravaillé par ça. Il y avait un jardinier en train de couper, de tailler les haies. Donc,
qu'on ne voit pas.
Qu'on voyait dans les rushs un peu, qu'on aperçoit à un moment donné. Et Angel va regarder à la fenêtre souvent, donc en attendant Tess. Donc c'était logique d'entendre ce bruit qui est assez entêtant et qui je ne sais pas si c'est une symbolique pour Roman de la relation qui est rompue à ce moment-là, quoi, complètement. Mais je voudrais revenir sur le fait que Tess, pour moi, c'est pas du tout un film négatif. Justement, c'est un film sur l'innocence trahie. C'est elle est complètement innocente et elle est ballottée dans un monde d'adultes qui sont dont l'un est arrogant et complètement pas dégénéré, mais c'est un peu un voyou. Et l'autre,
celui qui va donc la violer au départ.
Voilà. Et l'autre
famille.
Est un voyou. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille innocente au départ. Complètement, je trouve.
Alors, vous étiez monteur son sur ce film, et à ce propos, je lisais dans un entretien que vous disiez que la France, à propos du son, était le seul pays à être passé du cinéma muet au cinéma parlant, là où les autres font du cinéma sonore. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
C'est vrai que dès que le cinéma est devenu parlant en France, c'est quand même beaucoup du théâtre filmé, quoi. C'est-à-dire que tout est dit dans le dialogue, toutes les intrigues sont résolues par la parole en général, beaucoup plus que par le son, quoi. Il y a peu de scènes vraiment sonores dans les films français. C'est toujours des scènes dialoguées. La parole a une importance plus que capitale, quoi. C'est ça qui draine l'action. Et souvent, on se dit que des scénarios gagneraient à être un peu moins bavards et avoir des situations un peu plus parlantes d'elles-mêmes, mais pas dialoguées, quoi.
Mathieu Conquet.
Hervé Deluz, Laurent le rappelait, Tess, c'est votre première collaboration avec Roman Polanski. Il y en aura plusieurs, je crois, ouais, presque neuf, Lune de Fiel, Le Pianiste, Ghostwriter. Quel est le rapport de Polanski au montage, et notamment, enfin, quels sont ses désirs quand il arrive avec vous à la table de montage, et notamment au niveau du son, puisque c'est très important, c'est lui, on le sait, il y a une sorte de dramaturgie du son.
Polanski est un des rares réalisateurs qui inclut le son dans le scénario. Il y a des indications de son et qui ont une vraie fonction dramatique. Et donc, c'est déjà une indication énorme pour un monteur son. Et dans son travail de toute façon de montage, c'est un fantastique conteur d'histoire. Son souci, c'est la narration. Il met la narration en avant et chaque scène... L'importance des personnages est capitale, c'est-à-dire que on essaie de s'assurer que chaque personnage est bien dans la situation qui va faire avancer l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre un personnage dans une situation qui soit un peu rocambolesque par rapport à l'histoire qu'on veut raconter. C'est toujours, il y a un souci d'exactitude, de justesse par rapport au personnage.
Alors, le réalisateur est particulièrement connu pour son exigence. Par exemple, dès les premiers jours du tournage de Tess, il fait repeindre toute la verrière du château. Il mélange les décors naturels et le studio. Ce n'est pas le même travail au niveau du montage. Même chose pour Pirates, avec des problèmes de scène et de plans qu'il tourne séparément. Donc, on imagine le casse-tête au niveau du montage. Quel est le montage le plus complexe que vous ayez eu à travailler pour lui, Hervé Deluze ?
C'est sûrement le pianiste. Apparemment, on avait tous les éléments, mais le pianiste, il y avait une dimension documentaire dans le film qu'il ne fallait surtout pas perdre. Et on arrivait tous les deux avec un espèce de savoir-faire qui était ancien, je dirais. Et là, il fallait oublier tout. Il fallait essayer... Parce que l'idée, c'était de ne pas faire un film hollywoodien, mais pas de faire un film non plus qui soit plein de trucs de cinéma. Et il fallait être le plus simple, le plus sobre possible, arriver à restituer quelque chose qui ressemble à des actualités un peu, tout en racontant une histoire fictionnelle. Enfin.
Et donc, au niveau du montage, quel était le problème pour vous ?
Le problème, c'était d'éviter les gros effets, quoi. C'était vraiment d'essayer d'aller vers une grande simplicité sans pour autant cultiver la maladresse. Enfin, c'était pas ça le but non plus. Mais il fallait éviter tout ce qui faisait trop cinoche, quoi, qui était un peu trop tape à l'œil, quoi.
Mathieu Conquet. Alors,
puisqu'il n'y a pas que Polanski dans votre filmographie, Hervé Deluze, puisque vous avez aussi monté des films vraiment aussi différents que Le Garçu de Piala ou Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann. Montage pour un monteur avec quelques films.
Un film sonore.
Je vous écoute.
Parlant.
Dans le texte original.
L'application d'une théorie, la mise en pratique d'un système.
Je n'ouvre pas la porte, hein. J'enlève la clé.
Mais comment ça s'appelle réfléchir ?
Réfléchir, ça veut dire. T'essayes de penser, et quand t'essayes de penser, t'essayes d'avoir des idées pas trop bêtes.
Même moi, j'arrive à comprendre.
Papy,
faut pas t'emmerder, toi.
Approche ton oreille, il y a du trou de la serrure.
C'est pas con ce qu'il dit. Yeah, c'est pas con ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit d'autre, moi ? Ah, c'est pas con ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis d'autre ?
Pourquoi tu dis ça ?
Est-ce que tu te laisses pas faire ?
Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un vent de révolte ?
Qu'est-ce qu'il va chercher là ?
Ah, mais toi, déjà, tu peux plus comprendre. C'est le genre de choses que. Même moi, j'arrive à comprendre.
Comme c'est calme.
C'est conjugal.
C'est bien ce que je dis.
Et ça, c'est quoi, alors ?
C'est conjugal.
La crotte de bique ?
Tout juste.
Je veux vivre avec toi, te donner toute ma vie.
Et j'en ai rien à foutre de ta vie, c'est ma vie à moi qui compte.
J'étais un gros con dans toute sa splendeur.
Quand est-ce que tu vas comprendre ça ? Même moi, j'arrive à comprendre.
Je suis un mauvais sujet, je suppose. Un sacré mauvais sujet.
C'est quand même pas compliqué.
Même moi, j'arrive à comprendre.
Vous savez tout à présent.
Waouh ! Voilà qui est bien dit.
Voilà qui est bien con.
Vous trouvez ?
Me pardonnez-vous ?
Je suis pas un chien, moi, merde !
Angé.
Un commentaire peut-être sur ce montage qui regroupe Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann, Le Garçu de Maurice Pielat, Le Goût des eaux d'Anne Jaoui, Lune de Fiel de Roman Polanski, Manon des sources de Claude Berry, Pas sur la bouche d'Alain René, Pirate de Roman Polanski, Ciao Pantin de Claude Berry, Thèse de Roman Polanski, The Ghostwriter de Roman Polanski et Jean... Non, j'arrête là, mais parmi tous les films que vous avez, dont vous avez signé le montage. Une réaction ?
Non, il y en a que j'avais plus ou moins oublié et...
On a bien fait de vous les rappeler.
Oui. Non, si, vous avez bien fait de me les rappeler, mais c'est vrai qu'il y a des répliques. J'ai dit que le cinéma était plus parlant que sonore, et du coup, il y a des répliques qui marquent profondément. Et je vois même mes enfants me sortent encore des répliques de films que j'ai montés il y a 20 ans. Enfin, ça frappe beaucoup, quoi. C'est des répliques cultes, un peu, sans faire Le Père Noël est une ordure, qui est la somme de toutes les répliques cultes du cinéma français.
Mathieu Conquet.
Puisqu'on entendait un extrait de Pas sur la bouche d'Alain René, vous avez travaillé avec René pour On connaît la chanson, Pas sur la bouche, Cœur. On connaît le fait que c'est quelqu'un qui a un grand travail de préparation. Il fait même, je crois, des essais avec des figurines pour mettre en place sa mise en scène. De fait, quelle liberté est-ce que ça laisse au monteur après, quand le réalisateur a à ce point préparé les prises de vue et que du coup, j'imagine, ça ne laisse pas toujours des solutions de rechange. Pour le
Sachant qu'Alain René était monteur aussi. Par exemple, Pointe courte, le premier film de Varda,
oui, c'est absolument, lui. Oui, absolument. Mais je pense que, enfin, c'est vrai qu'Alain met en place une mise en scène très précise qui varie un peu, enfin, au moment du tournage, forcément, puisque selon les déplacements des acteurs et tout ça. Mais je pense que, bon, c'est vrai qu'il dit même, il ne dit pas couper souvent au tournage, il dit collure. Ça veut dire qu'on coupe, mais ça laisse quand même une certaine liberté au point de vue rythme, quoi. C'est-à-dire qu'il est, il est extrêmement précis, mais on a une façon de travailler où je fais un bout à bout tout seul et après je lui montre et en général ça se passe très très vite, quoi. parce que c'est effectivement très calculé. Les derniers films, il y avait quelquefois plusieurs solutions, alors que d'habitude, il y a toujours à peu près une seule solution. On jette un plan par film à la poubelle, c'est tout. Tout est utilisé. Là, disons que dans le dernier, il y en a peut-être eu trois, quoi, c'est tout.
Par exemple, quelles étaient les doubles solutions qu'il pouvait y avoir dans le dernier ?
Des solutions plutôt de rythme, c'est-à-dire d'être plus, par exemple, sur la captation de la pièce que sur les acteurs, quoi, d'inverser un peu la balance entre ces deux moments du film.
Alors, on entendait aussi dans le montage la voix de Géraldine Pellas dans Le Garçu de Maurice Pialat. C'était le dernier film. C'est le premier avec qui vous. Enfin, c'est son dernier film et c'est le premier film avec lequel vous allez collaborer, puisque son monteur attitré, c'était Yann Dedé. Je crois qu'il n'était pas disponible à l'époque.
Ça exactement,
s'est fait,
oui.
C'est fait comme ça. Est-ce que vous souvenez des points sur lesquels il avait insisté pour le montage de ce film, précisément ? Parce que travailler avec Pialat, ce n'est pas si simple non plus.
Non, d'autant que le scénario était quelque chose de très flou, qu'il appelait un hors-d'œuvre, je me souviens. Il disait « c'est un hors-d'œuvre ». Et donc, il a tourné des scènes qui n'étaient absolument pas dans le scénario. Il avait la seule chose qui était un peu préconstruite dans le film, c'était la mort du père. Et c'était tout ce qui tourne autour de la mort du père, l'enterrement et tout ça. Tout ce qui était sur son fils n'était pas du tout construit. Tous les rapports entre Gérard Depardieu et Géraldine, c'était quelque chose qui s'improvisait plus ou moins, quoi. Enfin, qui sous sa direction, mais qui étaient des choses qui n'étaient pas prévues vraiment. Et donc, après, au montage, tout était possible. Il y avait un désordre qui était effarant, qui était le désordre de la vie. Par exemple, la fin du film, on a mis je ne sais pas combien de temps à la trouver. On en a essayé plein c'était difficile de le convaincre parce que tout était possible, quoi. Il s'est résigné à cette fin-là que moi j'adorais, mais je pense qu'il s'y est résigné vraiment. Il n'était pas convaincu.
Mathieu ?
Alors, puisqu'on parlait de Yann Dedé, il était venu dans l'émission avec lui. On avait parlé de son travail avec Jean-François Stévenin, qu'il avait beaucoup intéressé, stimulé, notamment par le fait que parfois le montage allait contre ce qui s'était fait au tournage. C'est-à-dire qu'au tournage, il tournait beaucoup de plans séquences assez longs, des plans, des séquences de moins de 3 minutes, mais qui venaient au montage couper sans pour autant trahir complètement le sens de la séquence. Est-ce qu'il y a eu des réalisateurs comme ça qui ont pu vous surprendre par une sorte de volonté de montage qui allait contre ce qui avait été fabriqué pendant le tournage ?
Non, pas vraiment. J'ai pas trop connu ça. J'ai connu des réalisateurs qui ne faisaient pas de plan, quoi, qui enregistraient des images, qui faisaient des choses qu'ils appelaient des plans, mais qui n'avaient aucune fonction narrative. Et donc c'était très bizarre parce que je leur demandais qu'est-ce qu'ils voulaient dire, comment aborder la scène. Et à l'arrivée, on voyait juste qu'il n'y avait pas de point de vue, quoi, c'est tout. Mais sinon, aller contre ce qui a été fait, c'est rare. C'est vraiment pour moi quand une scène fonctionne pas qu'on fait ça. C'est vraiment. Mais en règle générale, c'est pas normal d'aller contre ce qu'on a construit au tournage, je pense.
Vous-même, je crois que vous êtes essayé un temps à la mise en scène. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que vous ne continuiez pas dans cette direction, Hervé Deluze ?
J'avais beaucoup de mal avec les acteurs. C'est un problème de rapport humain, je pense, que j'étais trop timide. Et du coup, je me suis laissé un peu guider par les acteurs. Et donc, à l'arrivée, j'étais un peu désorienté. Je ne sais pas exactement ce que je voulais faire. Ce n'est pas le film que je voulais faire. Donc, comme le montage, ça me satisfaisait plus, j'ai continué dans le montage. Voilà.
Mathieu ?
Une des étapes importantes de votre parcours, c'est en fait la Cinémathèque française et Henri Langlois, puisque en fait, je crois que c'est votre sœur qui travaillait à la Cinémathèque. Et du coup, vous approchez Henri Langlois, le fondateur, l'homme voilà, central de la Cinémathèque. C'est lui qui vous encourage à rester plutôt que de partir à UCLA pour faire des
absolument,
études.
Absolument, oui.
Qu'est-ce qu'il vous apprend ? Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on pourrait appeler la méthode Langlois ?
Ben, Langlois, il était pas seulement patron de la Cinémathèque, il est aussi prof. Il avait des étudiants qui étaient censés être à Nanterre et qui venaient en fait à la Cinémathèque. Et dans ses cours, il avait une façon de faire très spéciale. Il faisait une espèce d'introduction qui durait 10 minutes. Et ensuite, il passait des bobines de films, mais vraiment des bobines de films qu'il avait sélectionnées lui-même. Et l'enchaînement de toutes ces bobines, ça illustrait totalement son discours. Ça racontait quelque chose. Je pense que c'est là où j'ai commencé à apprendre le montage un peu, à comprendre comment ça se passait, l'association d'images et comment un discours peut se créer par des images, quoi.
David Hamilton, est-ce que vous avez aimé faire du cinéma ? Vous avez réalisé 5 films, est-ce que ça vous a vraiment plu ?
Non, j'aime pas ce métier du tout.
Qu'est-ce qui vous gênait ? C'était le rapport au montage, le rapport aux acteurs, le rapport à l'histoire, au récit ? Qu'est-ce qui...
Je suis pas fait pour ça. D'abord, l'équipe, j'ai jamais eu même un assistant. Alors, c'est long, c'est 12 heures, 10, 12 heures par jour. Et avec un peu de chance, on a 3 minutes en boîte. Une bonne journée, sinon on n'a rien du tout. surtout quand on est à la merci du temps, pas au studio où tout est là. Alors, j'aime pas, et mes jeunes filles n'étaient pas capables de jouer non plus. Alors, c'est pas pour moi ce métier.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La session.
Espérons qu'ils sont capables de jouer, mais je le pense, Mathieu Conquet, les invités.
Jacaranda Muse, c'est un quartet de Harare, ils viennent du Zimbabwe, alors c'est un quartet, mais ils sont que deux derrière vous, puisqu'il y a deux des musiciens dont les visas ont été refusés au Zimbabwe, donc ils ne peuvent pas être à Paris pour leur concert de vendredi. Je les présente quand même, Jacaranda Muse, c'est un groupe qui est assez passionnant. Alors on les présente, pour dire vite fait, c'est du jazz du Zimbabwe, mais on a dit ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que vous allez entendre, il y a du violoncelle, du piano, du saxophone, du piano à pouce, le mbira, et puis une voix blanche, sans vibrato, Jean-Guilain qui fait la prise de son, me disait, tu vas voir, il a une voix un peu comme celle de Pharrell Williams. C'est pas faux non plus. Une des sources de leur musique, c'est quelque chose qui va nous rapprocher de Dave Brubeck dont on parlait tout à l'heure, c'est les Third Stream. C'est ce qui, dans les années 50, aux États-Unis, va réunir un peu le jazz et la musique de chambre européenne. Et eux font revivre ça en mélangeant ça avec leurs influences de soul ou leur culture Shona. Jacaranda Muse, ce soir avec nous, c'est Vimbai Mukharati au chant et au sax alto et Donald Shifaba au violoncelle. Let You Go en direct sur France Culture et la session est filmée. Jacaranda Muse, ils seront au concert vendredi soir à la Maroquinerie, c'est à Paris, avec Anthony Joseph et Blundetto. Une belle soirée. Leur album September Sun est paru sous le label Heavenly Sweetness.
Rien ne va plus.
Parce que tout est possible.
Merci à nos invités. David Hamilton, exposition Un monde de beauté, c'est à partir de demain à la galerie Arcube à Paris. Puis Hervé Delus, Tess, est paru chez Pathé Éditions. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Paris Match, plus de 3000 couvertures pour une boucle de la mémoire, un patchwork formidable où l'histoire, l'indispensable, le grave, le sérieux cohabitent avec le joli, le couronné, le de passage ou le carrément futile.
Demain, nos invités seront Jean-Pierre Bouixou et Jean-Pierre Turmel.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagane, Manou Farine, Mathieu Conquet, Xavier Martinet, Claire Maillot et Issa Wendoy. La chronique de Jean-Marc Lalanne, à la technique Julien Douminc, Jean-Guilain Meige et Jacques Azubert. Session filmée par Maurice Lévy, réalisation Thomas Beau.
Il est 19h53, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les grandes lectures de France Culture sur un petit format. Et cette semaine, André Dussolier lit Autrefois de Charles Cros.